Je vais essayer de vous amener à comprendre pourquoi est-ce que la question de l'arbitraire et de la motivation du signe, qui est une question qui de nos jours se pose, était amenée à se reposer pour différentes raisons. En ce qui me concerne, je dois préciser que je n'étais absolument pas à travailler sur cette question-là initialement et que ça n'était pas un objet de quête. Hein. C'est quelque chose qui est venu effectivement progressivement, comme ça a été dit pendant la présentation. La question de la motivation du signe part, de mon point de vue, d'un malentendu. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré le signe sous l'angle d'une abstraction, un rapport entre signifiant et signifié, c'est-à-dire une construction relativement abstraite du signe réalisée par un linguiste, par les linguistes de façon générale, qui considèrent leur objet en tant qu'observateurs extérieurs comme s'ils n'étaient pas eux-mêmes acteurs du signe linguistique. Tout le problème est là. Le problème est d'ordre phénoménologique. Va-t-on considérer le signe en tant qu'objet scientifique d'étude réifié, considéré de l'extérieur, dans une perspective phénoménologique de troisième personne, ou va-t-on considérer le signe du point de vue phénoménologique de la première et de la deuxième personne, c'est-à-dire du point de vue des expériants? Alors, pour nous, en tant qu'expérients, qu'est-ce que c'est qu'un signe exactement? Un signe, c'est avant tout une expérience motrice. Par exemple, si je prononce le mot « mot », il va bien falloir à un moment donné que je me lance dans une dynamique d'action motrice. Cette dynamique d'action motrice a un effet sur l'environnement extérieur, c'est-à-dire la création d'ondes acoustiques, la mise en vibration de l'air. Je passe sur la dimension physique de la chose. Et tout effet de l'action motrice va avoir un effet perceptuel sur l'ensemble des êtres vivants qui sont là pour percevoir. Ça vous concerne, vous, évidemment. Si je dis « mot », vous allez percevoir les ondes acoustiques qui se propagent à partir de mon action sensorimotrice. Mais moi aussi, je perçois l'effet acoustique du mot que j'ai produit. Par ailleurs, quand je réalise l'action « mot », j'ai la proprioception tactile des actions que j'ai, c'est-à-dire que je sens parfaitement ce qui se passe. Quand vous me voyez prononcer le mot « mot », vous voyez parfaitement ce que je fais du point de vue de la gestuelle faciale qui représente une partie de l'articulation. Pensez au robot Carl dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, dont on prétend qu'il comprend l'intégralité du sens à partir de l'articulation faciale. Ça, bien sûr, c'est impossible. Mais il y a une partie tout de même de l'expérience langagière qui passe par là. Et enfin, là je prends un raccourci, je le dis plus loin dans le texte, mais ça me permet d'aller à l'essentiel. Il y a toutes les études actuelles sur les effets de synchronisation multimodale. Alors qu'est-ce que c'est que les effets de synchronisation multimodale? C'est le fait que lorsque vous entendez une articulation d'un mot du type « mot », vous ne comprenez le mot à partir de la perception du son que si vous reconstruisez derrière, par simulation, le processus moteur par lequel on le produit. C'est-à-dire que vous reconnaissez la syllabe contenant un M et un O qu'à partir du moment où vous reconstruisez le geste articulatoire derrière, qui permet la construction, la formation de cette syllabe. Alors, ceci a été testé expérimentalement. Une expérience intéressante que je ne présenterai pas ici, il aurait fallu un PowerPoint et toute une animation, il faudrait plus de temps, mais une expérience intéressante s'appelle l'effet McGurk. L'effet McGurk est une expérience qui consiste à montrer une vidéo où l'on voit quelqu'un qui prononce « bas » en même temps que l'on a synchronisé cette vidéo avec un enregistrement audio de la même personne prononçant « ga ». Donc vous comprenez bien le principe, je vois à l'écran la personne dit « bas » et en même temps l'enregistrement synchronisé me met dans les oreilles « ga ». Autrement dit, il y a un piège. Ce qui est entendu ne correspond pas à ce qui est produit. Et que se passe-t-il dans ces cas-là? Eh bien, de manière générale, les interprétants, on pourrait croire qu'ils vont choisir entre ce qu'ils voient qui est le « bas » et ce qu'ils entendent qui est le « ga », et en réalité, ils choisissent une troisième solution, c'est qu'ils entendent « da ». Je dis bien « ils entendent « da ». C'est-à-dire, ils construisent un percept acoustique à partir de l'expérience dans laquelle on les a immergés. Et la construction de ce percept est évidemment perturbée par la contradiction entre motricité et acousticité. Et finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'intermédiaire. Bas, c'est bilabial, c'est le plus à l'avant. Ga, c'est à l'arrière, c'est le velaire. Et le cerveau, inconsciemment dans la procédure, résout la contradiction. coupant la poire en deux, c'est-à-dire en reconstruisant la motricité intermédiaire la plus proche possible tout en... Et ça donne da, qui est coronal, c'est-à-dire qui est à mi-chemin entre ba et ga. Et si vous prenez ba et ga et que vous le faites vous-même, vous entendrez très bien que le da est à mi-chemin entre les deux. Donc ceci pour dire que le signe est une action motrice à effet sensoriel. Bon, maintenant le signifié. Ça, c'est du côté du signifiant. Okay. L'expérience du signifiant, j'ai bien dit, en première et en deuxième personne, c'est-à-dire l'expérience dans sa multimodalité avec les synchronisations entre les différentes modalités visuelles, tactiles, auditives, et considérées différentiellement du point de vue de l'émetteur, mais qui s'entend, et de l'interprétant qui entend et qui voit, mais qui reconstitue ce que serait la motricité s'il la faisait lui-même, ce qui atténue fortement l'écart des points de vue. Alors maintenant, une fois qu'on a reconstitué ce qu'est l'expérience du signifiant du point de vue sensorimoteur, on va regarder les corrélations avec les signifiés. Alors, je vous regardais dans l'exemplier à la page 2. Le lexique anglais est caractérisé par un certain nombre de matrices consonantiques. C'est-à-dire que vous pouvez observer dans le lexique anglais un très grand nombre de mots monosyllabiques amorcés par des matrices de consonnes sp, st, sk, re, swe, twe, cl, gl, sl. J'en ai donné un certain nombre d'exemples. Ces matrices consonantiques sont de manière comparable à ce que George Boas a observé pour les langues sémitiques, mais dans un cadre théorique différent de celui de la théorie des matrices et des étymons, pour des raisons que de structure syllabique. Le lexique anglais n'est pas organisé de la même manière que le lexique français en matière de structure du lexique, mais on voit émerger ici un phénomène tout à fait comparable. Ce phénomène, quel est-il ? Il se trouve que ces matrices consonantiques représentent des espèces de classificateurs notionnels en termes d'expérience. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Premièrement, que ces matrices consonantiques évoquent des expériences sensorimotrices. Par exemple, SP est lié à la notion de rotation rapide et d'éjection par force centrifuge. Regardons le lexique. Spin, donc rotation rapide, c'est aussi l'essorage des machines à laver. Span, envergure, c'est-à-dire très exactement largeur occupée par l'aile des oiseaux une fois qu'il est déployé. Étymologiquement, c'est ça. Spill, renverser, répandre, c'est-à-dire geste de rotation d'une manière ou d'une autre qui mène à l'éjection du produit contenu par le récipient. Donc, rotation, éjection. Alors, certains des termes sont concentrés sur la notion de rotation et passent plus ou moins implicitement sur la notion d'éjection, c'est-à-dire se focalisent sur la première partie de l'expérience. C'est de l'expérience sensible sensorimotrice. C'est le cas de spin. D'autres termes se focalisent plutôt sur la deuxième partie de la notion d'éjection, rotation, force centrifuge. C'est notamment tout ce qui a trait au langage. Speak, parler, acte d'éjection par excellence. Spew, vomir. Spit, cracher. Spend, dépenser de l'argent. On a notamment cette belle expression en anglais, to go on a spending spree, qui veut donc dire s'adonner à une folie dépensière, par exemple un jour de solde. C'est spend, et spree, ben, il faut que ça parte, il n'y a rien à faire, on éjecte dans toutes les directions, la quatrième robe, la cinquième paire de chaussures, et le 32e chapeau à plumes. Ça, c'est to go on a spending spree. Spot. Alors, spot, c'est projeter une tâche. C'est une projection, fondamentalement. C'est une tâche, c'est-à-dire une projection. Le résultat, bien sûr, d'une action de cet ordre. Donc, on peut faire le tour du vocabulaire en SP et on va s'apercevoir que d'une manière ou d'une autre, le vocabulaire en SP, au niveau des noms, va désigner des objets qui ont la propriété de se comporter de cette manière-là ou désigner des objets qui ont la propriété d'être manipulés de cette manière-là. Par exemple, spoon, cuillère, qui se manipule comme ceci, ou spear, javelot, qui se manipule comme cela, c'est-à-dire qui s'utilise en réalisant l'expérience sensorimotrice. Alors, on en a donc comme ça un certain nombre. Sp, pour la rotation, centrifugation. St, pour la fixité, l'immobilisation, la rigidité, l'immobilité dans l'espace et dans le temps. Alors, c'est évident avec un certain nombre de verbes comme stop, s'arrêter, stand, être debout, stare, regarder fixement, star, une étoile. C'est moins évident dans certains autres cas, comme ce qui paraît un contre-exemple évident, le verbe start, qui veut dire commencer. Or, ce n'est pas un contre-exemple du tout, parce que start veut dire très exactement quitter un état d'immobilité. Donc, le st désigne l'état d'immobilité préalable. Et on le trouve en particulier dans un composé qui est le verbe to startle, qui veut donc dire faire sursauter. Donc, mettre quelqu'un dans un état de mouvement par rapport à l'état d'immobilité préalable. Donc, quand on considère le fonctionnement d'un certain nombre d'entre eux qui ont l'air de contre-exemples dans un premier temps, on se rend compte que non. Ske en rapport avec la notion de surface, R avec la notion de torsion, alors, les organes comme le wrist, les comportements comme writhe qui veut dire se tordre de douleur ou se contorsionner le plus souvent sous la douleur ou sous la rage, wrath qui est la grande colère ou la rage, c'est-à-dire celle dont on se tord, wrought iron, le fer forgé, c'est-à-dire le fer qui a été tordu, il y en a énormément d'autres que j'ai pas mis, wrap, donc le verbe emballer, etc., etc. Donc, désignation d'objets qui se manipulent ou désignation d'actions de cet ordre-là. OK ? Alors, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, première chose, on constate donc qu'il existe dans le lexique anglais une partie du lexique qui est sous-entendue par des classificateurs consonantiques qui ne sont pas des descriptions des objets. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement de la mimophonie. Il ne s'agit pas de dire... Je vois quelque chose qui se passe ainsi et j'encode directement dans une forme langagière qui serait évocatrice de cela. C'est pas ça. C'est une forme langagière qui constitue d'une certaine façon une prédiction de la manière dont l'objet peut se comporter ou de la manière dont il peut se manipuler. Et effectivement, on peut concevoir que dans les états originels du langage, il est tout à fait utile et intéressant sémantiquement de rappeler que finalement la cuillère, c'est le truc qui se manipule comme ça. Ou de rappeler que le javelot, c'est le truc qui se manipule comme ça. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de saillant et de pertinent et de bon à savoir, au départ, dans la genèse du langage, c'est la manière dont un objet s'utilise, le type de sensation que donne une certaine classe d'expérience. Bon, ça, bien sûr, c'est la motivation initiale, si c'est bien ça qui s'est passé. Le problème, c'est que le phénomène se conserve en diachronie à une époque où on n'en a absolument plus besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on se demande bien pourquoi il continue d'être utile de fonctionner comme ça. Alors, la première chose que l'on constate, c'est donc que, utile ou pas utile, nécessaire ou pas nécessaire, ça marche. Et donc, il n'y a aucune raison de renoncer à une solution sémantiquement efficace et qui fonctionne. La seconde chose, c'est qu'il n'y a pas que la motivation initiale au sens de genèse graduelle du lexique dans des strates très anciennes dans l'histoire des langues. Il y a aussi un mécanisme continu de remotivation. Et la remotivation, c'est la réinterprétation continue de la cohérence du système par ses usagers. C'est-à-dire que la grosse question, c'est de savoir, mais au fond, les anglophones, est-ce que, oui ou non, ils détectent cette valeur de SP et est-ce qu'elle est mise en œuvre même inconsciemment? Alors là, on a plusieurs raisons de dire oui. La première d'entre elles, c'est que du point de vue de la diachronie, parmi les mots que je vous ai donnés, je vous ai masqué l'origine. Il se trouve que certains d'entre eux sont issus de mots de racines indo-européennes en général qui étaient bel et bien en SP à l'origine, mais pour d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Vous prenez par exemple le verbe spend. De manière générale, tous les mots liés à la dépense sont des racines latines en P précédées d'un préfixe qui est soit dis, que l'on retrouve dans dispensed, ou en ex, que l'on retrouve dans expenditure. Et donc, l'évolution du mot a été ainsi faite que la réduction par aphérèse du préfixe à un S qui donc précède le P, a permis l'intégration de certains mots supplémentaires qui sont devenus des membres du club alors qu'ils ne lui appartenaient pas au départ. Et ça, c'est typiquement un phénomène de remotivation. C'est-à-dire que le jeu de l'analogie permet inconsciemment à des communautés de locuteurs de faire évoluer la forme du lexique de manière à ce que le lexique devienne porteur d'une matrice consonantique qu'il n'avait pas au départ, parce que, bien sûr, cette matrice consonantique, il se trouve par hasard que ça peut être sémantiquement pertinent. Alors, effectivement, il est sémantiquement pertinent de présenter le geste de dépenser de l'argent comme un geste de dépense physique comme ceci, que l'on peut donc mimer circulairement. Et ceci est pertinent, ça ne veut pas dire que ce soit un déterminisme. C'est-à-dire, il est hors de question de dire, quand on dépense de l'argent, on fait toujours ça, donc il faut que le verbe dépenser se dise sous une forme sp. Non. Et c'est là qu'il y a eu un malentendu fondamentalement. C'est que lorsqu'on parle de motivation du signe, on n'a jamais dit déterminisme de la forme du signifiant par rapport à l'expérience du signifié. Pas du tout. La motivation n'a jamais été déterministe. Donc là, il y a un gros malentendu. C'est que la motivation se présente de manière contingente et hasardeuse. Il y a 10, 50, 100 motivations contingentes, concurrentes, possible pour tel ou tel type d'expérience. Et dans le hasard de l'histoire de la langue, de l'histoire des idées, de l'histoire des religions, de l'histoire des comportements humains dans leur environnement, c'est telle ou telle motivation concurrente qui, à un moment donné, va pouvoir entraîner tel type de devenir de la forme des mots. Ce qui fait qu'a posteriori, évidemment, ça marche tellement bien et ça devient tellement inévitable qu'on se dit, ben oui, ça ne pouvait pas être autrement que comme ça. C'est finalement l'impression a posteriori qui finit par se décanter. Mais ça, c'est un phénomène de décantation avec l'histoire de la langue. Bon, donc, c'est en gros les données concernant les éléments iliophoniques. Il me reste combien de temps? J'ai pas regardé. D'accord, donc j'arrive. Ok, très bien. Alors, maintenant, la dernière chose que je veux dire concernant ces éléments idéophoniques, avant de passer à la troisième partie, c'est le fait que les éléments idéophoniques, bien sûr, sont ces espèces de médiateurs phénoménologiques, hein, c'est comme ça que je les considère, des médiateurs phénoménologiques entre le lexique et les entités notionnelles qui correspondent derrière. Ce sont des indicateurs de classe d'expérience. Alors, une question importante, c'est qu'ils sont cohérents, mais ils reposent à leur propre niveau la question de l'expérience sensible. Par exemple, dans certains cas, il y a une liaison assez nette, voire assez évidente dans certains cas, entre l'expérience de la phonation, de l'articulation, et l'expérience à laquelle ça se réfère. Par exemple, pour « st », dont il est montré que le sens historique probable est la notion d'interception d'arrêt d'un mouvement, et donc on obtient la notion de fixité. Bon, ben c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on transite d'un phonème continu avec sa durée, le S sifflant, vers un phonème occlusif discontinu et terminal final en sortie de bouche qui lui fait vivre l'expérience d'une interruption et d'un arrêt. Donc je ne dis pas c'est ça, parce que bien sûr c'est improuvable, je veux dire comment est-ce qu'on fait pour prouver quelque chose de ce genre. Ce que je dis c'est, s'il y a une suspicion de corrélation entre les propriétés sensorimotrices de l'articulation de st et les propriétés sensorimotrices de la classe notionnelle et d'expérience qui va derrière, c'est là qu'il faut chercher. Comment très exactement, c'est plus compliqué, parce que bien sûr il faudrait des corpus oraux sur les pratiques langagières en des temps anciens, donc le problème c'est que par définition ce matériau nous échappe, donc c'est là qu'on nous reproche souvent le manque de scientificité, hein. On va en rediscuter après si on a le temps de ça, de la scientificité, mais si on cherche c'est de ce côté là bon. Et puis il y en a d'autres comme SP où justement c'est beaucoup moins évident, c'est-à-dire quel rapport y a-t-il entre l'articulation de SP et l'expérience d'une rotation et d'éjection par force centrifuge. Cette notion n'est pas, je veux dire, le caractère motivé de SP par rapport à cette expérience-là est moins évident, et donc il faut aussi voir que les gens qui ont initialement travaillé sur la notion de phonestème des éléments idéophoniques dans la tradition et notamment dans les années 30 n'ont pas bien vu que les éléments idéophoniques reposaient la question de la motivation de l'arbitraire à leur niveau propre et qu'on y retrouvait la discussion. Et alors, dernière chose concernant ces idéophones, ils sont aussi capables de s'organiser de façon cohérente. Regardez par exemple SP. J'ai donc dit SP, mouvement d'éjection, rotation, éjection par force centrifuge, c'est clair. Considérez soit le SW. Le SW, là, c'est tout ce qui est rotation, pendulation. Par exemple, swim, nager. Alors, la première nage, une des premières nages, c'est le crawl, c'est pas la brasse. La brasse est une nage relativement récente dans l'histoire de l'humanité, le crawl est plus ancien. Donc, c'est une nage par balancement. Sway, Osciller, vaciller, être sur le point de s'effondrer. Switch, commutateur. Swap, let's swap mails. Donc, échangeons nos adresses mails. C'est vraiment faire le geste de l'échange. Swing, balancer, etc. Donc, pour spur, on avait la rotation. Pour soi, on a la rotation affaiblie. Il faut bien voir que le W, là, le W, c'est une bilabiale comme P, mais une bilabiale affaiblie, c'est-à-dire une bilabiale non occlusive. Donc la transition SP, soi, correspond à la transition rotation contre pendulation, pendulation étant une rotation partielle et alternée. Et enfin, il y en a un qui est très intéressant, c'est TW, TWE. Parce que TW en anglais, c'est deux choses. C'est bien sûr tout ce qui tourne autour de la binarité, le double, two, twins, between, etc. Enfin, toute la gamme des mots en TW qui tourne autour de la notion de deux. Mais c'est aussi un mouvement en TWE accéléré. Par exemple, to twitch, qui est une forme qui veut donc dire réaliser un mouvement d'oscillation pendulaire comme les paupières, mais accéléré. Et alors là, si on réfléchit bien à l'expérience sensorimotrice, si vous regardez un mouvement de balancement et que ce mouvement de balancement accélère à un point tel que vous ne voyez plus que les extrêmes, vous ne voyez plus les intermédiaires, vous ne voyez plus que les extrêmes, eh bien le phénomène de la permanence rétinienne vous fait percevoir quoi ? Il vous fait percevoir ceci, c'est-à-dire les extrémums. Les deux, la phase d'un côté et de l'autre de la pendulation, autrement dit la binarité. Donc, concernant le rapport entre SP, soi et toi, il y a une forte présomption en anglais que le marquage de la notion de la binarité en TW, qui est une marque très abstraite, s'est construite à partir d'une représentation accélérée de l'expérience corporelle de la pendulation. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, on synchronise, on finit par arriver directement à la notion de 2 sans passer par l'intermédiaire du comptage. Voilà. Donc ça, c'est une illustration typique de ce qu'on appelle la corporéité cognitive, c'est-à-dire le détour par la dynamique sensorimotrice corporelle pour construire des représentations abstraites telles que la binarité. Alors, chez les linguistes, la notion ne va pas de soi, encore qu'elle se développe actuellement avec des travaux comme ceux de Lakoff et tous les travaux sur la métaphore. Par contre, chez les psychologues, par exemple chez Piaget, c'est un lieu commun. Je veux dire, la construction de la représentation de l'espace à travers la motricité et ce genre de choses, ça va de soi. Donc la question que je pose, c'est pourquoi ne considère-t-on pas que, ma foi, le langage peut porter des indicateurs motivés de ce genre de choses et continuellement remotivés par les communautés linguistiques de génération en génération, parce que ces communautés linguistiques sont sensibles à ça, et donc il y a des portions du système qui sont entretenues et même enrichies, alors qu'il y a d'autres portions du système qui éventuellement, effectivement, s'érodent parce que tel aspect de l'expérience sensorimotrice n'est plus perçu de manière sensible à un niveau générationnel donné. Ma dernière partie sera sur le système grammatical. Alors, dans le système grammatical, on a aussi une dynamique qu'on va observer en anglais, une dynamique tout à fait cohérente, qui est que, traditionnellement, les marqueurs grammaticaux ont toujours été considérés aussi comme des opérateurs opaques. Par exemple, il n'y aurait aucun rapport entre la forme « this » et ce que veut dire le mot « this », le déictique, le démonstratif, ce ou ceci. Et si je vous dis « this pen », ma foi, le caractère indexical, le caractère déictique de « this » ne doit rien à sa forme. C'est purement arbitraire, c'est purement hasardeux, ça n'a rien à voir. Or, regardons bien, cette fois-ci, les morphèmes grammaticaux de l'anglais. Il se trouve qu'en anglais, on a une opposition WHTH, que l'on retrouve partout. What, that, when, then. Alors, what, objet inconnu à définir, that, objet connu, défini. When, quand, c'est-à-dire repérage dans le temps inconnu, then, alors, à ce moment-là, repérage dans le temps connu. Where, lieu inconnu à trouver, there, lieu connu. Vous faites la liste de l'opposition WHTH en anglais et vous comprenez tout de suite que WH veut dire amémoriel, indisponible dans la mémoire de l'interprétant, alors que the veut dire mémoriel, disponible dans la mémoire de l'interprétant. Vous allez trouver dans la mémoire, dans votre mémoire présente, ce dont je parle. Et donc je dis I saw him there, je l'ai vu là. Effectivement, je l'ai vu là, égal à l'endroit dont moi je considère que vous l'avez en mémoire. ST. Alors, donc, à partir de là, j'ai proposé que l'articulation WH était un déclencheur de cataphore, c'est-à-dire un déclencheur de recherche ou d'identification dans une catégorie, le temps, l'espace, la personne, etc. Alors que Zeit est un déclencheur d'anaphore, c'est-à-dire un déclencheur de recherche mémorielle de quelque chose qu'on a déjà repéré ou identifié. Deuxième opposition, parmi beaucoup d'autres, ST. ST, c'est bien connu, c'est une marque de présent dans le verbe pour S, et une, quand il est présent, au niveau de la personne, était, est une marque de passé, notamment celle du prétérit et du participe passé. Le problème, c'est que cette opposition présent-passé, ST, on la trouve aussi ailleurs. Par exemple, vous allez avoir yes et yet. Et yes, c'est un acte présent d'approbation, c'est-à-dire je dis oui maintenant à l'autre, je donne mon accord, je valide, je donne mon accord pour approuver ce qu'il vient de dire. Par contre, si je dis yet, qui veut dire cependant, pourtant, toutefois, que veut dire yet exactement? Eh bien, c'est je peux considérer qu'on a dit oui à cette proposition à un moment donné, passé, mais dans l'argumentation, j'ai l'intention de revenir dessus en introduisant un aspect contraire. Autrement dit, yet est un opérateur de remise en cause de quelque chose qui a déjà été considéré comme validé, comme approuvé dans le passé. Et c'est toute l'ambiguïté de la notion de concession. Parce que concession veut dire, on a beau avoir déjà considéré que c'est oui, ça continue quand même à résister, il va falloir revenir là-dessus. Bon, bah, yes, yet. Alors là, évidemment, pour des linguistes un peu traditionnels, on est dans l'hérésie totale parce qu'on ne respecte plus du tout les conventions de la linguistique distributionnelle. Monsieur Bottineau, vous êtes complètement fou. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une opposition ST transversale, transcatégorielle, pour citer les travaux de Stéphane Robert. Ce sont les, il existe bel et bien des travaux sur la transcatégorialité, c'est-à-dire des travaux sur des opérateurs grammaticaux et des contrastes grammaticaux comme celui-ci, que l'on va retrouver dans le domaine du nom, dans le domaine du verbe, de l'adjectif, etc. Bon, ben là, manifestement, on a une opposition transcatégorielle. Troisième opposition, IA. Alors, IA, c'est bien connu dans les langues du monde. Le I, c'est de manière générale la notion de proximité, de contact, de petitesse, de réduction de l'espace. Manifestement, en rapport avec l'expérience articulatoire que l'on peut avoir quand on prononce un I, mais aussi en rapport avec l'effet Doppler, parce que là, je ne vais pas, m'éterniser là-dessus, mais le I est une voyelle dont on perçoit le formant aigu. Le I est une voyelle fondamentalement aiguë au niveau du conscient, pas totalement, il y a deux formants, un et deux, enfin bref, mais il y en a un qui se perçoit consciemment alors que l'autre ne se perçoit pas au niveau du conscient, et le formant aigu de I en fait une voyelle en rapport avec la notion de rapprochement de petitesse par effet Doppler, alors que le A, au contraire, est une voyelle dont le formant acoustique percevable est un formant grave. Hein, ça, on ne viendrait pas à l'idée de dire « grive », là ça ne va pas marcher, mais grave, ça marche parfaitement. J'ai testé la chose une fois dans une caverne. J'étais avec mes filles dans une grotte à touristes et il y avait tous les touristes en train, japonais, américains et autres, en train de tester des « ah », des « oh », des « ou », chacun dans sa langue. Et puis moi, je fais « i ». Et bien sûr, j'ai été le seul idiot à lancer une voyelle qui n'a suscité aucun écho. Le truc le plus extraordinaire, c'était que ça provoquait l'éclat de rire général aussi bien chez les Américains, Japonais, Allemands, Français, Espagnols, quelle que soit la langue parlée. C'est-à-dire que là, il y avait une conscience universelle de ce que c'est qu'une voyelle dans sa dimension sensorimotrice articulatoire et le type de réponse environnementale qu'on peut en attendre. Et que cette conscience universelle permettait à tout le monde, chacun dans sa langue et sa culture, d'éclater de rire alors qu'on ne se comprenait pas. Alors quand j'ai dit mon « i », évidemment, j'ai pas eu d'écho, et donc j'ai dit « c'est en panne ». J'ai demandé si l'écho était tombé en panne pour moi. Et donc ceux qui avaient compris ma langue ont ri à cause de la plaisanterie, mais les autres rient en n'ayant rien compris de la plaisanterie. C'était bel et bien l'inadéquation du « i ». Alors, je reviens donc sur « this ». Eh bien, « this », qu'est-ce qu'on y repère? Premièrement, un marqueur de récupération mémorielle, autrement dit « this glass », cet objet que nous avons repéré. Ce présent, cette chose que nous avons repérée et que maintenant je définis comme étant un verre, this glass, cette chose que pour vous, à votre intention, je catégorise comme verre. Et bien sûr, l'acte de reprise mémorielle est présent, l'acte de catégorisation est présent, les deux sont mis ensemble, ils sont synchronisés, d'où le i. C'est-à-dire que le i, je ne vais pas en faire une analyse, comment dire, pifométrique du genre le verre est tout près, donc c'est this, alors qu'il est loin, c'est that. Non, ça, ce n'est pas vrai. Il y a énormément de contre-exemples. Il y a eu beaucoup de travail sur corpus qui a été fait pour montrer que this et that, ce n'est pas simplement la proximité et la distance spatiale. C'est i synchronise l'opération de reprise mémorielle en the et le présent de nomination indiqué par s. Je synchronise le repérage de l'objet mémoriel avec l'acte présent de catégorisation notionnelle. This glass. Par contre, that glass, maintenant que j'en ai parlé, c'est cette chose dont je considère qu'elle est prédéfinie comme vert pour vous comme pour moi, puisque nous l'avons déjà repérée et mentionnée, non seulement en tant qu'objet du monde réel, mais aussi en tant qu'objet de discours. Et donc, that glass. D'où le caractère prospectif de this. This is the 10 o'clock BBC News. Voici la nouvelle de 10 heures. Ça, ça se dit au début du journal. Et that was the 10 o'clock BBC News. C'était le journal de 10 heures. Effectivement, en français, this automatiquement va me projeter vers l'avenir parce que j'attends le présent de nomination. De quoi va-t-il me parler au juste? Alors que that, je sais de quoi il m'a parlé. Donc, le caractère rétrospectif anaphorique est déclenché par le T. Bon, donc this va s'opposer à that sur le critère présent de nomination, passé de nomination, puis bien sûr le passé de nomination en that, il est désynchronisé par rapport à l'acte présent de reprise mémorielle, A et non plus I, et ainsi de suite. Donc là vous avez le principe. Alors maintenant j'écourte. Il existe donc une gamme de marqueurs de ce genre, l'opposition WHTH, le système des voyelles où il y a un certain nombre d'exemples et données, le R qui est lié à la notion d'initialisation, le S qui actualise dans le présent, le T finalisé, c'est-à-dire faire plonger dans le passé, le N qui est négatif, le M qui est une marque de subjectivité énonciative qui ancre sur le locuteur. Pour le M, c'est le système, bien sûr, de la personne, me, my, etc., mais c'est aussi le système des auxiliaires modaux, may, must, mood, modality et compagnie. Ce qui permet d'arriver à des choses tout à fait surprenantes. Par exemple, si vous regardez le système des prépositions. Le système des prépositions, c'est prospectif to, intériorité in, et enfin localisation précise, c'est-à-dire terminer à la fin d'un parcours, on localise une étape dans un parcours, at. Et ce système, il est dupliqué dans le verbe infinitif to, forme flexionnelle ing et forme participiale ed, où l'on retrouve le T de at. Et donc, on a en parallèle un système spatial en to, in, at, et un système aspectuo-temporel en to, in, ed. Ceci est vrai au niveau de la réorganisation du système dans son état actuel. C'est tout à fait faux en diachronie, bien sûr. Parce que s'il est vrai en diachronie, en histoire de la langue, que le to prépositionnel a donné le to infinitif, ça c'est vrai. Par contre, la préposition in en histoire de la langue n'a rien à voir avec la flexion ing, qui est la fusion d'un nom des verbales allemands et puis d'un suffixe de participe présent dental dans les langues romanes. Donc ça n'a rien à voir avec la préposition in. Et quant au ed, qui est un suffixe dental de marque de passé, n'a rien à voir avec la préposition at non plus. Donc c'est le système qui s'est remotivé et réorganisé dans cette cohérence-là. Alors ma conclusion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si on revient sur l'expérience sensorimotrice du langage, finalement, quand on énonce, on articule et on donne à percevoir à autrui comme à soi-même des sensations. Ces sensations sont reconstruites et ces sensations sont, non pas stimulatrice, parce que ce n'est pas du behaviorisme, mais joue un rôle d'amorçage dans des processus de construction du sens. Alors ce à quoi j'arrive, c'est que certaines langues comme l'anglais, mais pas mal d'autres, parce que j'ai travaillé sur le breton, le basque, etc., ont d'une part organisé leur morphologie grammaticale, ce que vous avez sous les yeux, les démonstratifs, les déterminants, les auxiliaires, les prépositions, de manière à ce que la structure même du mot grammatical soit indicative de la structure de la relation abstraite exprimée par le mot. Par exemple, this, ce n'est pas un simple démonstratif. This coordonne un acte de reprise mémorielle avec un acte de catégorisation notionnelle présent ou passé. C'est déjà plus, et le tout dans un environnement spatial, bien sûr. C'est déjà plus intéressant que de dire simplement c'est un démonstratif. Autrement dit, d'une certaine manière, le mot grammatical porte sa propre notice de montage abstraite et métalinguistique. Et ça, c'est donc un mécanisme de motivation très fort, au sens où le mot est cognitivement efficace. Ça ne veut pas dire qu'il a été déterminé du dehors par l'expérience. Je veux dire, montrez-moi un this. Qu'est-ce que c'est qu'un this? Qu'est-ce que c'est qu'un that? Qu'est-ce que c'est qu'un which? On ne peut pas dire que le mot a été déterminé par l'expérience. C'est l'inverse. C'est la nature du processus cognitif qui s'organise par le biais de l'expérience sensorimotrice. Et donc, de manière générale, parler, c'est faire penser soit autrui dans le cadre de la communication, soit soi-même, réflexivement, dans le cadre de l'endophasie, la parole intérieure qui n'est jamais prise en compte par les linguistes. Il est dans ce cas-là tout à fait logique que l'expérience sensorimotrice joue un rôle structurant dans le profil même des processus cognitifs de l'interprétation. Pour moi, la motivation au sens actuel, c'est ça. C'est comment une motivation de l'expérience y compris articulatoire et sensible, a été détournée de sa vocation, de sa dimension initiale, vers une dimension plus abstraite qui est la construction du sens. Voilà.